Vous écoutez
RMC.
Mercredi 27 mai.
L'info sur RMC.
Il est 7h01, Céline Kallmann est là pour les infos. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. L'État met le paquet pour encourager les clients à retourner dans les concessions. Plan d'aide de 8 milliards d'euros à la filière automobile annoncé hier avec un bonus pour l'achat d'un véhicule électrique. Conseil de défense aujourd'hui et demain pour enclencher la phase 2 du déconfinement. Le gouvernement planche sur un élargissement significatif de la limitation des 100 km. Et à partir de lundi, le gouvernement envisage aussi d'ouvrir plus largement encore les écoles. Les mots de Didier Deschamps dans le journal Le Parisien, le sélectionneur des Bleus salue une décision sage et cohérente concernant l'arrêt de la saison. Bienvenue à tous sur RMC. Du vert, du propre et pour cela des milliards d'euros. Emmanuel Macron a annoncé hier les contours précis du plan de relance pour le secteur automobile. 8 milliards d'euros donc, avec d'un côté 5 milliards pour Renault, ce n'est pas encore signé, et de l'autre 3 milliards d'investissements et d'aides. Depuis l'usine Valeo à Étaples dans le Nord-Pas-de-Calais, Emmanuel Macron a donc affiché son objectif, encourager les Français à acheter des véhicules propres.
Ce qu'il nous faut réussir à faire, c'est que nos concitoyens achètent davantage de véhicules, et en particulier davantage de véhicules propres. Pas dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans, maintenant. Tout renouvellement du parc de véhicules est bon écologiquement. À chaque fois qu'un de nos concitoyens change un vieux véhicule essence ou un vieux diesel pour un véhicule neuf, diesel, essence, hybride et encore mieux, électrique, nous réduisons nos émissions et nous nous mettons en situation de respecter nos objectifs. Ce qui montre qu'on peut réconcilier l'objectif écologique et l'objectif économique.
Alors, il y aura une prime écologique de 2000 euros pour les hybrides rechargeables. Pour l'achat par les particuliers d'un véhicule 100% électrique, là, le bonus va passer de 6 à 7 000 euros. Nicolas Repère.
Cela fait plusieurs mois que David et sa femme pensent à remplacer l'une de leurs deux voitures.
Nous réfléchissons à pouvoir acheter une voiture électrique. L'idée étant que ce soit un bon équilibre entre l'aspect financier, les dépenses annuelles, et l'écologie.
Ce père de deux enfants pourrait toucher 12 000 euros d'aide, une somme très incitative.
Avec les aides de l'État, ça penche forcément sur le côté électrique. 6 000 euros de plus par rapport à ce qui se passait avant le 1er juin, ça reste une motivation plus qu'intéressante. Donc oui, ça pourrait me faire passer le pas d'acheter l'électrique dès le 1er juin.
Ce plan de relance doit permettre à la filière automobile de faire sa révolution, estime Cécile Goubet, la secrétaire générale de l'association de promotion de la mobilité électrique.
Les annonces qui ont été faites marquent vraiment un coup d'accélérateur. C'est important parce qu'aujourd'hui, le marché automobile est en pleine révolution. C'est aujourd'hui que ça se prépare. Le tissu industriel, il faut l'accompagner aujourd'hui de façon à ce qu'il n'y ait que des véhicules à très faible émission qui soient produits rapidement et en France si possible.
Le président de la République a dit hier souhaiter que d'ici 2025, la France produise 1 million de véhicules électriques et hybrides.
C'est dans ce contexte d'objectif de relance que Renault pourrait supprimer 5000 postes d'ici 2024 en France. Selon le Figaro, il n'y aurait pas de licenciement sec ni de plan de départ volontaire. Cela coûterait trop cher. Renault envisage en fait de ne pas remplacer les départs à la retraite pour 5000 salariés. Le secteur de l'habillement au plus mal également. L'entreprise de prêt-à-porter Camailleux, qui emploie 3900 salariés en France, dont 450 au siège social à Roubaix, a été placée hier en redressement judiciaire. La phase 2 du déconfinement, c'est pour lundi 2 juin et demain, on devra en savoir plus sur une date de réouverture des musées, des restaurants, des parcs et jardins peut-être. Conseil de défense aujourd'hui et demain autour du chef de l'État et d'Édouard Philippe. La fameuse distance maximale de 100 km autour de son domicile devrait enfin être assouplie. Paul Barcelone.
La mobilité doit être accrue, confirme un ministre, conscient que les Français s'impatientent à quelques semaines des vacances d'été. Ces nouvelles règles de déplacement ne sont pas encore totalement arrêtées. Ce sera significatif, précise le gouvernement. Mais déjà, plusieurs élus locaux s'inquiètent d'un relâchement dans la vigilance des Français. Ils ont fait beaucoup d'efforts, préfère souligner un ministre, qui pointe également le travail des forces de l'ordre. Réguler des déplacements de 100 km à vol d'oiseau reste très difficile. D'ailleurs, plus de 100 000 contrôles ont été effectués durant le week-end de l'Ascension pour à peine 700 verbalisations.
Et si les indicateurs sanitaires restent ouverts, le gouvernement envisage aussi d'ouvrir plus largement encore les écoles à partir de lundi. Annonce du Premier ministre Édouard Philippe hier à l'Assemblée. Pour le moment, seuls 2 élèves du primaire sur 10 et environ 3 collégiens sur 10 ont repris le chemin de l'école. Laura Taouchanoff.
Des classes incomplètes et une présence en demi-journée la plupart du temps, mais à partir du 2 juin, Édouard Philippe espère permettre un retour massif des enfants à l'école.
Si les indicateurs restent bien orientés, alors nous pourrons sans doute organiser une ouverture un peu plus vaste des écoles. Faire en sorte que les règles sanitaires puissent s'adapter, toujours avec prudence, mais s'adapter à ces nouvelles conditions. Et évidemment, si on veut accueillir plus d'élèves, il faut que plus de professeurs puissent revenir, mais il faut que ça se passe dans d'excellentes conditions.
Mais tous les enfants ne feront pas leur rentrée la semaine prochaine. Contraints de rester à la maison, leurs parents pourront alors continuer à bénéficier du chômage partiel.
Pour ceux qui souhaiteraient faire en sorte que leurs enfants soient accueillis à l'école et qui ne pourraient pas, pour des raisons de capacité, soit parce qu'on ne peut plus les accueillir, on ne peut pas les accueillir à ce moment, alors, pour cela seulement, lorsqu'ils auront une attestation qui permettra d'établir le fait que leur enfant ne peut pas être accueilli, ils pourront continuer à bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel.
La Fédération des conseils de parents d'élèves appelle aussi le gouvernement à rouvrir les centres de vacances à tous les enfants pour que les parents puissent reprendre le travail.
C'est peut-être une avancée essentielle dans la connaissance du Covid-19. Une étude de l'Institut Pasteur et du CHU de Strasbourg a été dévoilée hier. Le personnel de deux hôpitaux de la ville a été testé en contact avec la maladie. Eh bien, le personnel a apparemment été immunisé. Margot Bédé.
160 personnes, membres du personnel hospitalier du CHU de Strasbourg et de l'Institut Pasteur, ont été testées. 160 volontaires qui ont développé des formes mineures du Covid-19 et qui n'ont donc pas été hospitalisés. Résultat, 98% de ces patients ont produit des anticorps neutralisants. En clair, ces anticorps ont permis à ces personnes testées d'être immunisées. Seul bémol, le manque de recul ne permet pas d'identifier pour le moment une immunité sur le long terme. La protection contre une nouvelle infection dure près de 40 jours après le début des signes. D'après les chercheurs, ces résultats sont encourageants, notamment dans la quête d'un vaccin.
RMC 7h07, le second tour des municipales sera dimanche 28 juin. Les élus des grandes villes demandent à faciliter le vote par procuration. Nous prenons la direction d'une petite commune de Franche-Comté ce matin, Froidefontaine. C'est entre Belfort et Montbéliard. Bernard Viat, 63 ans, élu dès le premier tour, a entamé son deuxième mandat depuis son lit d'hôpital à cause du Covid-19. Il a passé 4 semaines dans le coma. Florian Chevalet, Romain Poiseau.
Bonjour Bernard.
2 mois déjà que Bernard Viat est sur son lit d'hôpital.
Ça fait un sacré moment qu'on ne s'est pas vu, dis donc.
En visioconférence avec son premier adjoint, il est ravi de retrouver les petits tracas du quotidien d'un élu.
Tu vois, une fuite d'eau à la maison des Polonais, un tuyau d'évacuation bouché.
Après 4 semaines de coma, à son réveil, ses toutes premières pensées vont pour ses administrés. Il demande aux infirmières de pouvoir appeler le secrétariat de sa mairie.
J'ai demandé si ça allait. Je voulais les entendre, j'étais content de pouvoir faire du vote.
Alors il débute son deuxième mandat, plus déterminé que jamais.
J'ai envie de faire plus parce qu'on vous a donné la chance de pouvoir le faire. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Et moi je mènerai le combat pour la commune, pour moi, pour les habitants. Voilà, je suis comme ça.
Un esprit combatif qui fait la fierté de Mickaël, son fils.
Il a une envie, on est obligé même de le freiner un peu parce que la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de commencer les travaux de l'église. Il part encore plus battant qu'avant.
Mais dans le village, Nathalie, employée de la commune, trouve le temps long.
Bah nous, il nous manque, hein. On a besoin de lui. Soit avec nous, de retour, voilà.
Pour son retour, les habitants ont déjà prévu un pot de l'amitié.
Quand l'appel du football est plus fort que les règles sanitaires. Après Strasbourg, Grigny dans l'Essonne, un match opposant Grigny à la Cité des Tarterets a réuni hier soir près de 300 personnes. Nous n'avons pas les moyens de les disperser, a confié un policier. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, la préparation des footballeurs français pour l'Euro aurait débuté aujourd'hui. Dans une longue interview au Parisien aujourd'hui en France, Didier Deschamps revient notamment sur l'arrêt prématuré de la saison, Gladys Laffitte.
Oui, une décision sage et cohérente qu'il faut accepter, dit le sélectionneur de l'équipe de France. Pour lui, la reprise des championnats chez certains de nos voisins, comme en Allemagne et bientôt en Espagne et en Angleterre, répond avant tout à une logique économique. Didier Deschamps pointe des images incohérentes en Allemagne, des matchs joués à huis clos, avec des joueurs remplaçants installés en tribune, masqués à 2 mètres les uns des autres, mais qui se taclent et vont au contact sur le terrain. Un sélectionneur qui a l'Euro 2021 en tête, bien sûr, inquiet de récupérer ses joueurs qui jouent à l'étranger, fatigués. Le calendrier est trop chargé, selon lui. Mais il va s'adapter, c'est son maître mot tout au long de cet entretien. La priorité est clairement sanitaire. Je ne veux surtout pas me plaindre, ce serait indécent, dit-il.
Merci Gladys. Une image rarissime et poignante hier soir à l'Assemblée nationale, où les députés ont voté à l'unanimité l'allongement à 15 jours du congé pour le deuil d'un enfant. Des députés qui ont ponctué leur vote par des applaudissements debout. Je rappelle que la mesure avait été rejetée en janvier dernier. Jean-Jacques.
Merci Céline, on vous retrouve tout à l'heure, il est 7h10, nous allons continuer à parler d'automobile. Je vois Gilles qui veut intervenir aussi, il est avec nous, il est dans le territoire de Belfort. Les masques aussi, ça fait réagir de nombreux auditeurs. Est-ce qu'il faut infliger une amende de 300 euros à celui ou celle qui jette un masque dans la rue ? Ou, je sais pas moi, dans un jardin, dans un espace public. Vous nous dites, en Italie, on ne plaisante pas avec les masques jetés par terre.
On va encore plus loin que les 300 euros. Ouais. 300 euros, c'est l'idée d'un député du sud-est de la France. Bon là, c'est la ville de Nardo, près de Lecce, dans les Pouilles, qui déclare carrément la guerre à l'incivilité. Désormais, ceux qui jettent leurs gants ou leurs masques dans la rue s'exposent à une amende de 450 euros, le maire là-bas
en Italie. 450 euros l'amende.
Il prône la tolérance zéro contre Pipi ces gens Mélone, sales.
Il s'appelle
absolument.
Le maire.
Il parle de gens sales et il va proposer bien sûr davantage de poubelles installées dans la rue.
Oui, ce sont les maires qui prennent ces décisions-là, ces arrêtés. Alors vous êtes maire, peut-être vous avez envie de nous en parler, vous n'hésitez pas. Qu'avez-vous prévu pour les grandes vacances d'été ? On va savoir un peu plus demain. Demain, nous aurons des annonces. Est-ce que le déconfinement va s'élargir ? Comment allons-nous passer nos vacances ? Un Français sur deux partira quand même, Quentin ?
44%, très exactement. Oui. 44% des Français ne changeront rien du tout. Ils avaient prévu de partir, alors ils partiront avec exactement le même budget, selon un baromètre Opinionway. Un tiers des Français a choisi d'annuler. Un autre tiers a choisi de reporter ses vacances à plus tard. Les plus indécis, ce sont les jeunes. Alors, parmi ceux qui partiront, la majorité des personnes interrogées disent qu'elles resteront en France. La Côte d'Azur et le Midi sont les destinations privilégiées. Les Parisiens misent beaucoup sur la Corse. Ceux qui habitent en région s'intéressent beaucoup à la Bretagne. On redoute des embouteillages monstres cet été autour du bassin d'Arcachon parce que tout le monde va venir en voiture. C'est la crainte là-bas. Et puis, les régions mettent en place des offres pour attirer les touristes. Bien sûr, c'est le cas des deux Charentes qui offrent 100 euros pour un séjour en Charente et en Charente-Maritime.
10 000 bons. Je vais en vacances en Charente, 100 euros.
10 000 bons de 100 euros pour deux nuits sur place, un repas au restaurant et une visite ou une activité. Et je peux vous dire que ça vaut le coup.
Oui. Pourquoi Quentin Vinet fait la promotion des Charentes ?
Pourquoi il est charentais ?
Parce qu'il est rochelais, Quentin Vinet.
Non mais j'ai tout compris.
Oui. Deux nuits à La Rochelle, un plat au resto et puis une petite balade autour de Fort Boyard, par exemple. Ça vaut le coup.
Ça vaut le coup. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est vrai. Bien, il est quelle heure ? 7h13, François Roudier nous a rejoint, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. Vous étiez avec nous hier matin, nous connaissons, bonjour François Roudier,
bonjour.
Nous connaissons maintenant le fameux plan, alors on va reprendre les mesures hein, ensemble. Bonus écologique, si je veux acheter une voiture électrique, 7000 euros. Bon, c'est pas mal. Hein, combien vaut une voiture électrique ? C'est cher une voiture électrique aujourd'hui.
Bon, elle commence à partir d'un peu moins de 24 000 euros.
Les premiers modèles sont à...
Oui, le premier
quel
modèle.
Quels que soient les constructeurs. Hein.
Oui, 20... alors quels que soient les constructeurs, on arrive à...
24 000 euros.
L'entrée de gamme, elle est à 24 000 euros.
Donc moins 7, ça fait 17 000.
Moins 7, et si on peut cumuler, c'est moins 12 000.
C'est moins 50%. 12 000, c'est 50%.
Alors, attention, parce que j'écoutais votre auditeur tout à l'heure, c'est pas le revenu global du ménage, c'est le revenu fiscal de référence. Oui. C'est-à-dire que c'est la quatrième ligne sur votre avis d'impôt.
Oui. C'est là où c'est un peu compliqué voilà. D'ailleurs.
C'est qu'en fait vous avez des déductions.
Mais ça correspond
avec les enfants.
À combien par mois ? Ça tout dépend du nombre d'enfants.
Exactement. Donc c'est vraiment ce qui compte. C'était 13 900 euros c'est remonté à 18 000.
Ça veut dire que ça va toucher quand même beaucoup de Français.
Normalement, selon le gouvernement. Les trois quarts des Français.
Les trois quarts des Français qui vont être concernés. Bien, ça c'est pour... Attention, mais ça c'est pas pour la prime...
C'est pour la prime à la conversion.
C'est pour la prime à la conversion. Qui est une prime très importante. Enfin, très importante. En quantité, c'est 3 000 euros, hein, la prime à la conversion. J'ai un véhicule ancien, je veux changer ce véhicule, je veux acheter un véhicule neuf ou d'occasion, j'ai 3 000 euros, à condition que ce véhicule remplisse des normes nécessaires pour préserver l'environnement.
Oui, hein, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des véhicules qui sont immatriculés depuis septembre 2019.
Hein,
voilà, vous avez de bonnes affaires parce que vous avez des véhicules qu'on appelle 0 km en fait, qui ont été immatriculés et qui sont maintenant passés comme des véhicules d'occasion.
Cette prime, par exemple, de 3000 euros à la conversion, elle peut être cumulée avec une prime que peut faire un concessionnaire, une promotion, un concessionnaire ou un revendeur d'occasion.
Tout à fait. Et vous pouvez même, sur les véhicules électriques, avoir des primes des régions ou des départements,
plus, oui.
des villes.
Donc il faut se renseigner absolument.
Il faut se renseigner.
Mais là, il y a vraiment des opportunités.
Ah oui. Oui, il y a vraiment des opportunités. Alors, la prime à la conversion, c'est une prime à la casse comme l'avaient fait les Allemands. C'est-à-dire que vous avez 200 000 voitures, et dans 200 000 unième, il l'a pas.
Terminé. Voilà.
Donc,
les Allemands avaient fait la même chose.
Ils avaient fait la même chose, hein, lors bon, des.
Ça avait marché. 2009.
Ça avait super bien marché.
Oui, ça, je suis sûr que les 200 000 véhicules vont être emportés très vite, hein.
Oui,
très,
oui, très je vite. Pense. Je pense. C'est bien, ça permet. Vous savez, il y a deux aspects, hein. Il y a la promotion de l'électrique, donc, comme on l'a vu, et puis cette idée de sortir des voitures des stocks.
L'électrique est encore cher, on l'a dit. Le véhicule électrique est encore cher. Les bornes, le président de la République, moi je me souviens, c'était le ministre des Transports qui nous avait annoncé l'histoire des 100 000. Il nous avait dit sur autoroute, c'était un peu trompé, en fait c'est dans toute la France, quoi, 100 000 bornes. Hein.
Oui.
100 000 bornes, est-ce suffisant?
Alors oui, parce qu'attention, le
2021.
Nombre, voilà, le nombre, oui, il y a un nombre, il en faut beaucoup. Mais après ça, il faut qu'elle soit bien placée. Parce que le problème, c'est pas que toutes les bornes soient à Paris. C'est très intéressant. Seulement, il y a un moment, quand on a dépassé Vierzon, comment on fait avec un véhicule électrique? Donc il faut qu'il y ait un maillage assez équilibré en fonction des déplacements des gens dans le territoire. C'est ça qui est important.
Oui. Vous dites qu'il faut au moins 200 000 bornes de recharge pour avoir une vraie couverture.
Oui, là on est sûr d'avoir une vraie couverture. On a un territoire qui est très large. Il faut penser que la France, vous savez, a un taux de motorisation qui est l'équivalent de celui de la Belgique ou de la Grèce. Hein, on est à 690 voitures pour 1000 habitants. Pourquoi ? Parce que on a un territoire extrêmement large. Donc on a des besoins, lorsque vous êtes très loin en Lozère ou en Creuse, trouver une borne électrique, c'est pas évident.
Dites-moi, mais pourquoi est-ce que ce plan n'est pas européen, ce plan de relance ? C'est une bonne question, ça, non?
En avant l'Europe.
Non, mais je pose la question. Eh ben, nous faisons un plan franco-français, là.
Ben, je crois que les États ont repris la main sur la relance de leur industrie. Les Allemands sont en train de faire un plan de leur côté. Attendre un plan européen global était sûrement difficile, ne serait-ce que pour les distributeurs, puisque vous avez les stocks, il faut sortir ces stocks. Et puis, il faut quand même rassurer. L'automobile, c'est un marché de confiance. Il faut avoir confiance dans son avenir et confiance en ce qu'on achète. Donc, il fallait aller vite. Et le système de fonctionnement européen ne le permettait pas.
Bon, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons prendre deux auditeurs. Gilles, qui est donc dans le territoire de Belfort. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Et qu'est-ce que vous voulez avoir comme remarque? Allez-y Gilles.
Ben moi je voulais rebondir sur ce que disait votre auditeur tout à l'heure en parlant des 18 000 euros de revenus. Il y a quand même 10 millions de Français qui vivent seuls aujourd'hui en France. Quand on voit ce que donne 18 000 par an, ça fait moins de 1 500 euros par mois. Pour financer une Zoé, une fois que vous avez payé un loyer, je ne sais pas trop comment on va faire. Quoi.
Oui, pour une personne seule, hein?
Pour une personne seule, tout à fait.
Oui, enfin, les 10 millions qui sont seuls, beaucoup gagnent plus aussi, hein, Gilles?
Effectivement. Oui. Après, il y a une chose également, je me demande quel lobby pousse absolument vers l'électrique, quand on sait qu'au niveau des batteries, on a de nouveaux tributaires de la Chine qui font travailler des enfants dans les mines en Afrique. Ça,
oui, alors Gilles, il va falloir à un moment donné ou à un autre qu'on coupe court à de fausses informations sur les batteries. Aujourd'hui, c'est vrai que les batteries sont fabriquées en Asie, on est d'accord, Là, il y a ce gros investissement pour fabriquer l'Airbus européen de la batterie.
Hein. Oui, c'est une société qui s'appelle ACC, ça veut dire cellule de batterie compagnie. Oui. Voilà. Oui. Et cette société, elle va être là pour produire des batteries en Europe, en France, dans les normes européennes et surtout dans les normes de RSE. Hein. La RSE, vous savez, c'est cette capacité des sociétés à produire.
Oui, mais elle sera opérationnelle quand, cette entreprise?
Les premières cellules sortent en 2023.
En 2023. Donc d'ici 2023, nous allons encore acheter des.
On achète des chinois, batteries. Coréens ou japonais.
Chinois, coréens ou japonais. Gilles, voilà. 2023, les batteries seront européennes. Bon, et notamment française, parce qu'il y a une usine. À
tout
quel
à fait.
Endroit?
Alors, c'est une usine pilote qui est Gersac, en Hac, je me souviens, voilà. Oui. Et vous avez aussi à Douvrin, chez PSA.
Dans le Nord.
Où il y a le travail. Mais il y aura sûrement une usine qui va être créée spécifiquement pour la production.
Pour la production.
Gersac, en Charente.
Non, mais décidément, c'est le monde qui tourne autour de la Charente. Merci Gilles.
Merci. Bonne journée.
Et bonne journée. Robert, lui, est dans la Loire. Bonjour Robert.
Oui, bonjour.
Alors, la voiture électrique, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de la voiture électrique? Moi, je vais vous dire, le plan annoncé hier, ce qui va marcher tout de suite, c'est la prime à la conversion. Ça, j'en suis absolument certain. Vous aussi?
Ah oui, tout à fait.
La voiture électrique, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de la voiture électrique, Robert?
Oui, bah écoutez, vous m'entendez là?
Oui, Jean-Jacques, oui, je vous entends, je vous entends.
Bonjour à tout le monde.
Oui,
oui, la voiture électrique, c'est l'une des premières voitures, c'est une voiture sensationnelle, pas de problème. Par contre, infrastructure, 200 000 postes, mais à la limite, c'est pas ce que les Français cherchent. Ce qu'il faudrait absolument, c'est que quand vous allez faire votre plein de gasoil, eh ben, vous allez faire votre plein de batterie, c'est-à-dire changer la batterie automatiquement dans les stations.
C'est changer la batterie.
Un système automatique qui vous change la batterie, qui vous en met une neuve et vous repartez. Vous faites votre plein à la limite de batterie dans le même temps que vous faites un plein de gasoil ou d'essence. Ça, c'est quelque chose d'important.
François Roudier.
Parce que
attendez, Robert. François Roudier va vous répondre. Ouais.
Alors, il y a une société israélienne qui avait lancé tout un projet là-dessus. Vous arriviez, vous garez votre voiture, et un système changeait votre batterie sur une neuve. En fait, c'était pas rentable, et on voit que l'évolution de la vitesse de recharge des batteries, c'est sûrement l'avenir. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez des batteries qui vous rechargent en 80%, des bornes de recharge qui rechargent 80% en 30 minutes. Oui. Je pense qu'on va abaisser ça à 5 minutes, 10 minutes.
Imaginez, il y a le temps d'aller prendre un café. 5 minutes ou 10 minutes, Robert, pour faire le plein.
Oui, mais il faut que l'infrastructure suive tout de suite.
Ah, mais ça, c'est sûr, vous avez raison.
On est encore loin de ça. On promet, alors, on donne des sous, pas de problème. Les gens sont heureux, tout ça. Mais demain, le président, je l'ai écouté, il a dit, c'est tout de suite. Demain, vous prenez votre voiture, vous allez chez Desjanis, Jean-Jacques. Bon, votre batterie est limite, vous allez vous brancher chez vos amis. Qui paye?
Oui, si je vais me brancher chez mes amis, mais... Oui,
vous allez mettre votre voiture en plein centre-ville, un endroit...
Robert, je pense qu'il faut être un peu positif. Je vous le dis sincèrement. Je vous dis sincèrement. Attention, je suis pas naïf sur l'électrique ni sur les propos du président de la République.
Moi, je veux dire, vous savez, Robert, moi, j'ai chargé ma voiture chez un copain en allant pour le barbecue et une voiture hybride rechargeable sur la prise de la machine à laver de la tata de ma femme. Et les deux n'ont pas hurlé.
Bon, d'accord. Merci, Robert. Merci, Inès. 7h22, merci François Roudier d'être venu nous voir. Encore une fois, vous êtes sur RMC. Mathieu.
Marie Dupin, dans un instant, pour nous parler de ces masques que l'on jette partout par terre, que l'on retrouve au fond de la mer, un député propose d'augmenter l'amende à 300 euros. Dupin quotidien dans un instant sur RMC.
RMC. Dupin quotidien.
Avec Marie Dupin. Bonjour Marie. Pas très
bonjour,
beau, hein. C'est pas très beau chez vous. Si? Le ciel est bleu, non? Un peu gris, non? Bon, d'accord. Les masques jetables usagés. Le gouvernement va lancer une campagne pour éviter que les masques soient jetés sur la chaussée.
Oui, il faut savoir qu'un masque jetable, Jean-Jacques, c'est quand même 4 heures d'utilisation, mais entre 300 et 400 ans pour se détériorer dans la nature. C'est d'ailleurs ce que rappellent ceux qui demandent une amende de 300 euros pour toute personne qui jette son masque sur la voie publique. Ces masques chirurgicaux, ils ne sont pas en papier. On pourrait avoir l'impression que c'est du papier, mais pas du tout. Ils sont constitués de plastique, du polyuréthane et du propylène qui mettent effectivement des centaines d'années à disparaître. Sans parler du fait que, en jetant son masque par terre, on risque de participer à la propagation du virus. Mais je peux vous dire que du côté du gouvernement, pas question d'augmenter les amendes. Au ministère de la Transition écologique, on estime qu'il y a déjà une amende de 68 euros qui peut être majorée à 180 euros quand on jette son déchet sur la voie publique. Et le gouvernement compte plutôt sur la prévention via une campagne de sensibilisation.
Bien. Est-ce que les masques chirurgicaux sont recyclables?
Non, on peut vraiment pas parler de recyclage. On peut pas récupérer les masques usagés pour fabriquer de nouveaux masques. La seule solution, à la limite, c'est de les traiter, de faire en sorte qu'ils soient plus vecteurs de la maladie et ensuite de les transformer en petits granulats de plastique par exemple, des tuyaux en PVC. Mais on n'en fera rien de plus.
Mais dites-moi, Marie, dans les années 70, les masques médicaux n'étaient pas jetables?
Oui, et ça, c'est vraiment très intéressant. Finalement, jusque très récemment, les masques médicaux qu'on utilisait à l'hôpital étaient tous réutilisables. Ils étaient évalués scientifiquement, ils étaient stérilisables et ils avaient des performances très satisfaisantes, même supérieures à celles des masques jetables. C'est une étude qui vient de sortir dans la revue médicale The Lancet qui nous dit ça. Les chercheurs de cette étude affirment que c'est uniquement pour des questions de praticité et de coût qu'on est passé du réutilisable au jetable. Et ils appellent ces chercheurs, les autorités des différents pays du monde, à se constituer des stocks de masques réutilisables pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation finalement, à jeter des stocks périmés et pour qu'on soit armés face aux prochaines pandémies. Et justement, Brune Poirson, qui est secrétaire à la transition écologique, doit s'entretenir aujourd'hui avec ces chercheurs.
Bien, merci Marie. L'actu des réseaux sociaux avec Charles Magnin, Charles.
RMC. Hashtag Magnin.
Twitter, pour la première fois, signale comme trompeur des tweets de Donald Trump.
Oui, en cause deux messages tweetés hier par le président américain dans lesquels il s'en prend au système de vote par correspondance. Un système frauduleux, écrit Donald Trump, qui accuse le gouverneur de Californie d'organiser une élection truquée. Un coup de colère assez classique de la part de Trump sur Twitter, sauf que pour la première fois, le réseau social a utilisé son nouvel outil de lutte contre les fake news. Sous les deux messages de Trump, Twitter a ajouté une petite ligne bleue, un lien qui invite les internautes à vérifier les faits. En cliquant dessus, l'internaute arrive sur une page de fact-checking, des articles de CNN, du Washington Post, au sujet du vote par correspondance. Ces articles s'attachent donc aux faits et remettent en cause les accusations de Donald Trump. Pour Twitter, c'est l'occasion d'afficher son ambition en matière de lutte contre la désinformation. Même si on peut se demander pourquoi la plateforme signale ces deux tweets de Donald Trump en particulier, alors que le président américain est coutumier des messages mensongers ou complotistes. Le même jour, il accusait par exemple un présentateur télé de meurtre sans aucune preuve dans une affaire déjà élucidée, mais ces messages n'ont pas été épinglés par Twitter. En attendant, ce premier avertissement a évidemment déclenché la colère de Donald Trump cette nuit, qui accuse Twitter, je cite, d'interférer avec l'élection présidentielle de 2020 et d'étouffer la liberté d'expression. Des messages que Trump a publié sur Twitter, évidemment.
Sur Twitter, évidemment. Bien, expliquez-nous, Nicolas Poincaré, tout à l'heure à 8h10. Bonjour d'abord, Nicolas.
Bonjour, Jean-Jacques.
Nous allons partir en Amérique du Sud, parce que nous suivons le virus. Et le virus, l'épidémie, le cœur maintenant, c'est l'Amérique du Sud.
Voilà, il a fait le tour du monde et il arrive en ce moment au Brésil, au Pérou, au Chili. Ce sont les nouveaux épicentres de l'épidémie, avec le Brésil qui, en plus, est dirigé par un populiste, Bolsonaro, qui pense toujours qu'on a affaire à une petite grippette.
Bien, à tout à l'heure, à 8h10. Il est 7h31, qu'allons-nous faire ?
Une immunité après le passage du virus, oui, semble indiquer une
immunité
étude de
croisée.
Pasteur, immunité croisée, très intéressante.
Ça veut dire que si j'ai été atteint d'un rhume ou d'une petite grippette il y a un an, je pourrais être immunisé ?
Éric Vivier, professeur d'immunologie à l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille, va tout nous dire, juste après le journal de 7h30 sur RMC.
Il est 7h32, Anne-Sophie Balbir est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Pourquoi le Grand Est et les Hauts-de-France sont toujours en rouge? Les conditions sanitaires semblent réunies pour passer au vert. Et pourtant, les deux présidents de région ont écrit une lettre au Premier ministre. L'immunité au cœur de la lutte contre le coronavirus. Selon une étude, les personnes atteintes par des formes mineures de la maladie produisent des anticorps neutralisants. Et puis, c'est inédit, la société d'Elon Musk, SpaceX, envoie deux astronautes dans l'espace. Le vol a lieu aujourd'hui. On y revient à la fin de ce journal. RMC 7h32. Les réunions ministérielles vont encore s'enchaîner dans les prochaines heures. Conseil de défense autour du président de la République et du Premier ministre. Au menu, les arbitrages de la prochaine phase du déconfinement. Un élargissement significatif de la limitation des 100 km est évoqué. Les indicateurs sont encourageants. Le virus circule peu, mais deux régions restent en rouge sur la carte. Les Hauts-de-France et le Grand Est. Deux régions qui ne comprennent pas bien pourquoi elles ne repassent pas au vert. À Mulhouse, le reportage de Caroline Philippe.
Les passants sont de retour dans les rues de Mulhouse et les clients aussi dans la boutique de téléphonie gérée par Salim. Mais la couleur rouge de sa région ralentit la reprise économique, selon lui.
C'est un handicap monstrueux aujourd'hui, donc on est les pestiférés. Il faut redonner confiance aux gens pour revenir à Mulhouse.
Circulation du virus, taux d'occupation des lits de réanimation ou encore nombre de tests, tous les voyants sanitaires sont en effet au vert, explique Jean Rotner, président de la région Grand Est.
Il n'y a pas plus de danger à venir chez nous qu'à aller aujourd'hui dans une zone verte. Il faut qu'on s'en sorte, il faut passer à une étape supplémentaire, il faut que le moral soit conservée. Et ça passe là aussi par une reprise économique.
Un argument qu'entend Frédéric Bierry, mais pour le président du conseil départemental du Bas-Rhin, il faudra inciter la population à rester vigilante.
On vous donne l'impression qu'il n'y a plus d'entrée dans les hôpitaux. Ce qui est faux, je crois à la nécessité d'ouvrir les territoires, mais je crois aussi à la nécessité d'imposer le masque dans les lieux publics à forte densité.
Le Grand Est est l'une des régions les plus touchées, avec plus de 5000 morts comptabilisées depuis le début de l'épidémie.
La suite du déconfinement se joue aussi dans les écoles. Le gouvernement envisage de faire revenir plus de professeurs et d'élèves. Il pourrait aussi y avoir du nouveau sur le sort des lycéens et de l'oral du bac de français. Dans les universités, une petite musique monte. C'est l'interdiction d'attribuer des notes inférieures à 10 sur 20 aux étudiants. Plusieurs facs ont déjà mis en place cette règle, notamment la Sorbonne, une façon d'enrayer les disparités entre élèves. Nicolas Traîneau avec Mao Becker-Granier.
Le confinement a rendu difficile la deuxième année de philosophie de Simon. L'étudiant de 21 ans n'a pas réussi à travailler et ne pense pas obtenir la moyenne.
J'ai perdu mon travail pendant l'épidémie, donc avec la nécessité de trouver de l'argent pour continuer à payer mon loyer, pour continuer à me nourrir. J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Simon soutient les professeurs et les syndicats étudiants qui ont voté l'interdiction de noter en dessous de 10, l'UNEF notamment. Majdisha Arana en est le vice-président.
On veut permettre à ce qu'un maximum d'étudiants puissent du coup réussir cette année malgré la situation. Et donc nous on veut des mesures exceptionnel.
Opposé à un tel avantage, François-Guy Trébul, le directeur de l'école de droit de l'université, a saisi le tribunal administratif, tout comme des collègues professeurs et le recteur de l'Académie de Paris.
Donner la moyenne à tout le monde, c'est en réalité refuser de permettre qu'une évaluation digne de ce nom puisse avoir lieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît d'une absolue gravité. Sans la possibilité de l'échec, quel est le sens de la réussite?
Les étudiants devront attendre le jugement du tribunal administratif la semaine prochaine pour avoir la réponse.
2 milliards d'euros de mesures annoncées pour l'automobile, 8 milliards au total en incluant toutes les aides d'État. Emmanuel Macron a présenté son plan dès lundi. Si vous achetez une voiture électrique, le bonus écologique passera à 7 000 euros, la prime à la conversion à 5 000 euros. Dans le dossier Renault, le président a réclamé des garanties pour les salariés de Maubeuge et Douai, deux sites menacés. Le constructeur doit dévoiler vendredi les contours de son plan d'économie et on commence à en savoir plus selon le Figaro, Thomas Chupin.
Oui, Renault n'envisagerait pas de licenciement sec ni de plan de départ volontaire, trop cher à assumer. C'est le non-remplacement de 5000 salariés qui partiraient en retraite d'ici 2024 qui est envisagé. Cela représenterait 10% des effectifs du constructeur en France. Par ailleurs, il y a bien dans ce plan d'économie la possibilité de fermer plusieurs sites, mais Renault l'assure, il y aura beaucoup de reclassements d'ouvriers dans d'autres usines. Et c'est bien pour cela que le gouvernement a, semble-t-il, accepté cette restructuration. C'est l'unique solution pour que Renault survive, dit Bercy. Et puis, parce qu'il y a une touche de relocalisation, notamment à Douai, pour l'assemblage de véhicules produits à l'étranger ou encore le maintien d'activités stratégiques comme la fabrication de moteurs électriques à Cléon en Seine-Maritime. Sauf que le ministre de l'économie lui-même l'expliquait hier. Fabriquer un moteur électrique demande 4 fois moins d'ouvriers que de fabriquer un moteur thermique.
Les dernières pistes santé sur le coronavirus. Selon une vaste étude de l'Institut Pasteur, les personnes atteintes d'une forme mineure de la maladie développent des anticorps. Ça pourrait leur permettre d'avoir une immunité de plusieurs semaines après le début de l'infection. Benjamin Davido est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
C'est plutôt une bonne nouvelle, comme toute bonne nouvelle. Et avec le Covid-19, il faut être extrêmement prudent parce que les bonnes nouvelles souvent se suivent de déceptions dans les jours qui viennent. Il faut probablement pas s'arrêter aujourd'hui à cette attitude contemplative et le reproduire à l'échelle nationale. Si aujourd'hui on arrive à montrer qu'on a des anticorps neutralisants et donc une certaine source d'immunité collective, alors probablement il faudra faire ce qu'on appelle des enquêtes de séroprévalence, dépister plus largement les individus, des groupes de population homogènes, pour voir à combien on peut estimer cette hypothétique immunité de groupe.
La France va multiplier les liaisons aériennes et maritimes vers l'Algérie, le Maroc et la Tunisie dans les 15 jours. 15 000 ressortissants de plus doivent être rapatriés. RMC 7h38, c'est une première. Ce mercredi, la société spatiale américaine SpaceX va transporter deux astronautes de la NASA vers la Station Spatiale Internationale. Décollage historique diffusé en direct. Ce sera le premier vol habité des États-Unis depuis 9 ans. Jean-Baptiste Bourgeon.
À quelques heures du compte à rebours, l'astronaute Bob Behnken est focalisé sur sa mission.
On parlera de notre place dans l'histoire une fois la mission accomplie. Avant cela, nous devons faire décoller cette fusée.
Un engin ultra-moderne décrit l'astronaute Jean-François Clairvoy.
Elle peut embarquer jusqu'à 7 personnes. Jamais une capsule n'a transporté plus de 3 personnes. Et à l'intérieur, bien sûr, au lieu d'avoir 1000 interrupteurs, eh bien vous avez des écrans tactiles pour les fonctions qui ne sont pas très critiques. Et enfin, parlons des combinaisons qui sont très modernes. Les astronautes enfilent cette combinaison combinaison par une seule ouverture. Le casque fait partie intégrante. Donc, c'est une combinaison qui est soumise à moins de risques de panne.
Depuis 9 ans, les États-Unis dépendaient de la Russie pour les vols habités vers la Station spatiale internationale, une époque révolue, estime le président du Centre d'études spatiales, Jean-Yves Le Gall.
Les États-Unis devaient envoyer leurs cosmonautes à Baïkonour, au Kazakhstan, et en monter sur la station avec un Soyouz russe. Donc, ils sont très, très contents de pouvoir relancer des astronautes américains à partir du sol américain de la Floride.
Si le lancement est réussi, SpaceX sera la première société privé à transporter des astronautes dans l'espace.
Jean-Baptiste Bourgeon, les courses, Mathieu, c'est à Vichy.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favorite numéro 8, Moutrafort, outsider numéro 15, V2, le 8 et le 15.
Des informations exclusives maintenant. Il est 7h39, vous êtes sur RMC. Exclusive sur le lancement d'un test salivaire pour détecter le coronavirus. Le docteur Thomas Autier est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin biologiste, l'un des gérants du groupe Inovi, 380 laboratoires de biologie médicale en France. Vous avez mis au point un test salivaire. Un test salivaire qui s'appelle comment ?
Alors, il s'appelle Isikov, mais je précise que c'est un consortium qui a mis au point ce test.
D'accord.
Et qui est composé de plusieurs sociétés que je veux citer, qui est la société SkillCell qui a produit le test. Et la société Vogo qui permet de lire ce test.
Bien, il s'agit d'un test virologique de type PCR.
Tout à fait.
Comment ? Il est indolore, simple prélèvement de salive sous la langue à l'aide d'un bâtonnet, c'est cela ?
Tout à fait.
Et que fait-on ensuite ?
Alors en fait, ce test, pour une mise en situation, on prend les renseignements du patient sur l'application numérique. Ensuite, le patient effectue lui-même le test salivaire sous le contrôle d'un professionnel de santé. Ce prélèvement salivaire est testé à 65 degrés, puis révèle un changement de couleur si le virus est présent, et il est lu par l'application numérique qui renvoie les informations à un biologiste médical et qui valide ce résultat.
Voilà, mais encore plus concret.
J'ai un retour dans l'oreille, donc c'est compliqué de vous parler.
Ah, d'accord. Mais encore plus concret. Ça va mieux là ? Encore plus concret, oui, Thomas Autier. Bon, ça va. Encore plus concret, Thomas Autier. Qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse utiliser ce test salivaire ? J'ai besoin de quoi ?
Alors, vous avez besoin de rien. Encore une fois, vous allez dans un laboratoire du médical.
Je vais dans un laboratoire. Bon,
je suis désolé, monsieur Bourdin.
Vous m'entendez mal ?
Je m'entends double, c'est impossible de vous parler.
J'en ai assez de ces Skype. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Thomas Autier ? Je vais vous reprendre par téléphone dans quelques instants. Je vais faire un peu de pub et on se retrouve. Il est 7h41.
RMC, Bourdin Direct.
Beaucoup de réactions après ce que nous disait Marie Dupin juste avant le journal de 7h30. Cette idée d'augmenter l'amende de 300 euros pour jet de masque par terre. Oui, trois fois oui à une amende, nous dit Boris, pour tous les gestes d'incivilité polluants, les masques, les gants, les mégots, les papiers, les crachats. Christian aussi est d'accord. Les Français deviennent de plus en plus irrespectueux. Ils ne respectent même pas leur pays. C'est une honte. Eric, d'accord aussi pour les 300 euros. Et il ferait de même pour les mégots. Lionel, lui, irait encore plus loin. Il mettrait une amende à 100 euros par année de dégradation dans la nature, c'est-à-dire 300 ou 400 ans, ça ferait 30 à 40 000 euros d'amende. Mathieu, lui, nous dit carrément des travaux d'intérêt général pour ramasser tous ces déchets. Il faut une action forte et percutante. Pierre a un témoignage de Dubaï. Ici, rien n'est jeté au sol, nous dit Pierre. Pourquoi ? Parce que l'amende est assez dissuasive. Nicolas et Mélanie sont aussi d'accord pour une amende dissuasive. Ils travaillent en grande surface et ils disent qu'on n'arrête pas de retrouver des masques à côté des caddies.
RMC au 32-16.
45 centimes la minute.
RMC, le sport de demain.
C'est Louis Hamar et Oussem Moussaïef. RMC a lancé une grande consultation pour construire ensemble le sport de demain. Vous avez été nombreux à envoyer vos idées. Cette semaine, nous débattrons de vos propositions sur le monde du foot. Économie, organisation, évolution des entraînements, des matchs, gestion des supporters. Quelle transformation et quel modèle dans les années à venir pour le foot. Rendez-vous tous les soirs dès 20h pour en débattre dans RMC par ici la sortie sur RMC.
Construisons ensemble un sport nouveau.
Menu printanier cherche des légumes et des fruits pleins de saveurs pour marier équilibre et gourmandise.
Chez Grand Frais, les fruits et légumes de saison sont fraîchement arrivés de nos producteurs français. Fraises, carottes nouvelles, cerises, salades, radis. Une explosion de couleurs et de saveurs à découvrir.
Le meilleur marché, c'est Grand Frais.
Peugeot présente Reconnexion.
Parce qu'il est temps de renouer avec des sensations de conduite exaltantes, les équipes Peugeot sont heureuses de vous retrouver pour vous faire profiter d'offres exclusives sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Comme l'incontournable SUV Peugeot 3008 style suréquipé avec navigation 3D connectée dès 299€ par mois sans apport. Rendez-vous en toute sécurité en point de vente et sur Peugeot.fr.
LLD 49 mois, 40 000 km pour un 3008 style jusqu'au 31 mai, si acceptation crédit par, détails sur Peugeot.fr.
Showroom privé présente.
Hier, une jolie dame me demande, c'est quoi la classe à la française? Je lui dis, c'est savoir être jolie, sans claquer son grisby. C'est avoir le chic, sans dépenser son fric. Bref, la classe à la française, elle passe par les French Days.
Du 27 mai au 1er juin, c'est les French Days sur Showroom Privé. Liberté, égalité, solidarité. Retrouvez les produits de nos meilleures startups françaises.
Showroomprivé.com.
Il est urgent de prendre soin de vous. French Days, jour français.
MMA, interruption spéciale.
Benoît, toujours pas de scoop.
Si, justement, en ce moment, 200€ offerts pour la souscription de deux contrats MMA. Un auto et un habitation.
Envoyez la pub.
Conditions sur MMA.fr.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute. RMC, 6h-9h.
Bourdin direct.
Docteur Thomas Autier, vous êtes avec nous, ça va mieux? Je pense que vous n'êtes qu'au téléphone, ça va mieux là?
Oui, je m'excuse, je m'entends en double, c'était impossible, hein. Désolé.
Ben, j'imagine. Thomas Autier, le test salivaire, est-ce que je peux le faire de chez moi?
Alors, non, c'est un test qui peut se faire ou dans un laboratoire de biologie médicale, ou sur le terrain, c'est ça toute l'innovation de ce
test.
Mais
sur le terrain, c'est quoi, sur le terrain?
Alors, sur le terrain, typiquement, c'est ce qu'on appelle un dispositif de biologie médicale délocalisé. À savoir qu'aujourd'hui, sous la responsabilité et la surveillance d'un professionnel de santé, on peut envisager ce test en dehors d'un cadre de laboratoire de biologie médicale. Je peux vous donner un exemple. Ça peut être, par exemple, avant de pénétrer dans une enceinte sportive, dans une enceinte pour un événement culturel, ou pour prendre un bateau, ou pour prendre un avion. Ça peut se faire donc sur le terrain, mais sous la responsabilité d'un biologiste médical, voilà. Avec un processus que je peux vous décrire en quelques secondes. Hein. Oui. Le patient renseigne ses critères d'identité dans une application qui est essentielle pour ce test-là. Il effectue un test avec un petit bâtonnet sous la bouche pour prélever de la salive. Ça se fait au niveau de la salive et pas au niveau du nez, donc c'est pour ça que c'est indolore. Ensuite, on met ça dans un réactif. Le professionnel de santé qui supervise ce test le met dans un réactif, dans un tube, qu'on chauffe à 65 degrés. Si le virus est présent, il y a une réaction colorimétrique qui est lue par cette même application.
D'accord.
Et qui pousse un résultat validé par un virus médical, et tout ça en moins de 60 minutes. Donc c'est un test qui est rapide, qui est indolore, qui est facile à faire puisque c'est un petit bâton sous la langue, qui est délocalisable, comme je vous le disais, c'est un test qui est sur le terrain et qui a les mêmes performances que la PCR classique qu'on connaît, qui elle peut durer plusieurs heures et qui n'est pas très agréable.
Voilà, c'est-à-dire qu'avant d'embarquer dans un avion, par exemple, avant de prendre un bateau, avant d'entrer sur un stade, je pourrais faire ce test.
Tout à fait, ou même et si oui. On pratique un sport collectif où il y a des mesures barrières sont impossibles à respecter, comme les sports
formidable.
Collectifs, par exemple.
Il sera mis sur le marché quand?
Alors, il y a une mise en charge progressive de commercialisation et d'industrialisation, et mi-juin même, on fera les premières mises à disposition du public dans ce cadre-là, tout à fait.
Dans ce cadre-là, combien coûtera-t-il?
Alors, il sera moins cher que la PCR classique, qui devrait être de l'ordre de moins de 30% sur une PCR qui, aujourd'hui, coûte aux alentours de 74€, pour être précis.
Oui, c'est-à-dire que si je veux me faire tester, ça va quand même me coûter 45 ou 50€, quoi.
Ça sera... ordre-là, tout à fait, avec un service rendu qui sera effectivement rapide, puisque le délai est très important pour casser les cas contacts.
La fiabilité, docteur Autier, la fiabilité?
Alors, la fiabilité, c'est un test qui est en cours de marquage CE, qui a été évalué sur un essai clinique dont les résultats seront rendus dans le détail vendredi, et qui est évalué au CHU de Montpellier par le service du professeur Rennes, que vous connaissez bien.
Oui.
Et c'est un test qui a été développé par SQL16 en collaboration avec le CNRS de Montpellier. Et donc vendredi, vous aurez tout le détail, mais je peux d'ores et déjà vous dire que les indices de performance, la sensibilité et la spécificité du test sont équivalentes à ce test PCR qu'on connaît tous maintenant, qui s'est par le nez.
Équivalent, mais c'est formidable ça, c'est formidable. C'est beaucoup plus simple et plus rapide. Merci beaucoup, hein. Merci Thomas Autier. Il est 7h48. Est-ce que nous avons encore des problèmes avec le professeur Eric Vivier, j'en suis désolé, qui voulait nous parler de l'immunité croisée, mais nous avons des problèmes de téléphone ce matin. C'est le direct, c'est la magie, si je puis dire, la magie entre guillemets du direct. Hein. Et je suis désolé parce que l'immunité croisée, c'est très 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 intéressant. C'est quoi l'immunité croisée? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais y revenir demain. On va essayer de trouver une solution téléphonique satisfaisante. Je vais y revenir demain. C'est quoi l'immunité croisée? Eh bien, aujourd'hui, on se demande si une partie de la population n'est pas immunisé contre le coronavirus. Pourquoi immunisé? Eh bien parce que les chercheurs se demandent si on n'est pas immunisé quand on a déjà été touché par un coronavirus. Imaginons, j'ai eu un rhume il y a quelques mois, un coronavirus donc, un rhume il y a quelques mois. Eh bien, je serai immunisé grâce à ce rhume.
Sans le savoir.
Et ça expliquerait peut-être les enfants. Pourquoi est-ce que les enfants ne sont pas très touchés par la Covid-19? C'est très, très intéressant, l'immunité croisée. Les recherches, là, avancent. Le professeur Éric Vivier, professeur d'immunologie à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, devait être avec nous. Je vous promets, il sera avec nous demain, si nous arrivons à résoudre nos problèmes téléphoniques. C'est une plaie, le téléphone. Une plaie, la mauvaise qualité téléphonique. Boris est à Grenoble, oui, dans l'Isère. Bonjour, mon cher Boris.
Bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous?
Alors, ben ça va très bien, là je suis un peu déçu, vous savez, comme tous nos auditeurs, parce que je voulais parler de cette immunité croisée. Bien, mais Boris, vous voulez parler des masques. 300 euros pour une amende de 300 euros pour celui ou celle qui jette un masque dans la rue, dans l'espace public. Il faut instaurer ces amendes?
Oui, pour moi je suis pour, mais je pense que au-delà de ça, c'est l'incivilité qui aujourd'hui gangrène notre monde.
Oui.
Surtout en France, où les gens, il n'y a plus de respect, où on est devenu un monde égoïste. Je ne fais pas attention à l'autre.
Oui.
Les gens jettent leur masque, leur gants n'importe où. Dès le début, je l'ai vu quand j'allais faire mes courses. Je trouve dommage. Et je pense que c'est aujourd'hui le français, il n'y a que l'argent. C'est triste à le dire, mais il n'y a que l'argent qui va le bouger, le motiver.
C'est terrible.
Et je pense qu'il faut élargir ça à tous les gestes d'incivilité. Les masques, les gants, les cigarettes. Il y a des rues, vous marchez plus sur des cigarettes dans la rue que sur des pavés.
Oui, non, mais
Les papiers, les déchets, les déjections canines. J'adore les animaux. Je suis en appartement, j'en ai pas, parce que pour moi, ça serait je trouverais ça trop triste pour lui. Mais quand vous sortez, faire attention de pas marcher sur une merde de chien. Il y a rien de pire quand vous partez travailler. Je me mets en costume, tac, je marche dans une déjection canine, j'ai pas vu, c'est horrible. Bon, mais voilà, ouais. C'est des masques,
d'accord.
Et l'incivilité aujourd'hui, c'est la gangrène de notre monde, de notre pays.
C'est la responsabilité. Et encore une fois, l'absence de responsabilité. On est responsable. Lorsqu'on porte un masque, on est responsable. On est responsable pour soi-même, on est responsable pour notre environnement et on est responsable pour les autres. Merci Boris.
D'accord.
Merci vraiment.
Merci Jean-Jacques. Passez une bonne journée.
Mais oui, tout de même. Expliquez-nous, c'est le moment.
RMC, expliquez-nous.
C'est Nicolas Poincaré qui est là pour nous expliquer. Nicolas, vous allez parler et nous parler. Nous suivons à la trace cette pandémie. Et vous allez nous parler de l'Amérique latine. Parce que c'est devenu maintenant l'épicentre de cette pandémie.
Oui, et le Brésil est particulièrement touché, avec en plus la particularité d'avoir un président qui est contesté pour sa gestion de la crise, ou plutôt pour sa non-gestion, puisque pendant des semaines, Javier Bolsonaro a expliqué qu'il ne croyait pas en ce virus, il dénonçait une hystérie autour de cette petite grippette. Une vidéo a été rendue publique il y a quelques jours et les télés brésiliennes continuent à la diffuser en boucle. On y voit une réunion ministérielle qui se tient le 22 avril. Le président éructe contre les gouverneurs qui maintiennent le confinement, alors que lui voudrait que l'économie redémarre. Alors il les traite de bouse et de tas de fumier. Il parle d'un connard de maire qui vient de signer une saloperie de décret de confinement. Autour de la table, il n'y a que des hommes, des ministres et des généraux qui rient très fort et qui répondent tous sur le même ton. Ces images n'auraient jamais dû sortir. Elles ont été diffusées par des juges qui enquêtaient sur autre chose, qui enquêtaient sur des soupçons d'intervention de Bolsonaro pour protéger ses fils qui sont accusés de corruption.
Oui, en fait, Javier Bolsonaro se comporte comme Donald Trump aux États-Unis, mais pire.
Voilà, encore plus caricatural. Comme Donald Trump, il a d'abord nié la crise. Comme Donald Trump, il s'oppose au gouverneur sur la question du confinement. Comme Donald Trump, il croit beaucoup en la chloroquine. Il suggère pour guérir de prendre ce médicament, de pratiquer le jeûne et de s'en remettre à Dieu. Il voilà. a déjà renvoyé.
On ne mange plus, on s'en remet à Dieu
et on prend de la chloroquine.
Et on prend un peu de chloroquine. Voilà. Et comme ça, on est tranquille.
Alors, il a déjà renvoyé deux ministres de la Santé parce qu'ils ne partageaient pas ses vues sur la chloroquine. Ah il a fini par nommer un troisième ministre qui est un militaire obéissant mais qui n'a aucune compétence en matière de,
ah bah
de
c'est
santé.
Un militaire comme ministre de la Santé, pourquoi pas
non, voilà. D'ailleurs, le gouvernement actuel du Brésil compte un nombre de généraux hallucinant. Il n'y en a jamais eu autant depuis la dictature. Alors, résultat, le Brésil est désormais le deuxième pays le plus touché du monde derrière les États-Unis en termes de nombre de cas, le sixième le plus touché en termes de nombre de décès. Mais surtout, alors que dans la plupart des pays, on voit que l'épidémie atteint un pic au bout d'une cinquantaine de jours environ, puis les courbes commencent à redescendre. Eh bien, au Brésil, on a passé cette limite des 50 jours et les courbes ne redescendent pas du tout. Au contraire, le nombre de nouvelles contaminations a même doublé ces derniers jours. On a compté 1000 morts hier pour le troisième jour consécutif, plus de 1000 morts en 24 heures. Alors, bien sûr, ce n'est pas uniquement à cause de la oui, politique populiste du président. Les causes sont nombreuses et, comme souvent, un petit peu mystérieuses. On peut noter aussi que là-bas, c'est l'hiver qui commence, mais en tout cas, les chiffres sont très mauvais.
Oui, ils sont très mauvais à l'échelle du continent. L'Amérique du Sud, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes en Amérique du Sud a dépassé celui de l'Amérique du Nord et de l'Europe.
Voilà, aujourd'hui, outre le Brésil, sont le Chili et le Pérou les pays les plus touchés. Au Pérou, on a encore eu 5000 nouveaux cas en 24 heures. Les hôpitaux de Lima, la capitale, ont prévenu qu'ils commençaient à ne plus accepter de nouveaux malades parce qu'ils n'ont plus de lits en réanimation.
Plus de malades.
Plus de respirateurs, plus d'oxygène, plus de protection pour les soignants. Bref, il manque de tout. Auparavant, c'était en Équateur qu'on a assisté à des scènes d'horreur. La ville de Guayaquil a recensé 1400 morts en quelques jours et les cadavres ont été abandonnés dans les rues. On a vu des corps être incinérés sur les trottoirs ou bien entassés dans les toilettes des hôpitaux. On avait vu ça nulle part ailleurs dans le monde.
Oui, l'Amérique latine est aussi maintenant le continent le plus pauvre touché par le virus.
Oui, beaucoup plus pauvre naturellement que l'Europe et l'Amérique du Nord. Et ça change tout. Les populations sont frappées par la crise économique en même temps que par le virus, parfois même avant. L'Argentine, par exemple, connaît déjà une très grave crise avec des files d'attente qui s'allongent devant les soupes populaires, alors que l'épidémie n'a pas encore vraiment touché l'Argentine. À Santiago du Chili, il y a des émeutes de chômeurs et de nouveaux pauvres qui affrontent tous les soirs la police en plein confinement. En Colombie, dans les grandes villes, les gens mettent un drapeau rouge à la fenêtre pour indiquer qu'ils ont faim. C'est un peu comme c'est un acteur.
Ouais, oui.
On met dans
un drapeau rouge un drapeau pour indiquer qu'on a faim.
Voilà, c'est à la fois un geste politique, un peu comme les gilets jaunes chez oui. nous, mais aussi un geste très pratique pour dire ici, il y a une famille qui ne mange pas à sa faim. Si vous avez un petit peu de pommes de terre ou de pâtes, eh bien, on prend. Enfin, il y a un pays qui vit déjà dans une extrême pauvreté depuis des années, c'est le Venezuela. La majorité de la population ne mangeait déjà pas à sa faim avant l'épidémie. Eh bien, aujourd'hui, c'est pire. Et le pays est aussi sans doute le plus grand menteur du monde en ce qui concerne les statistiques, puisque officiellement le Venezuela dit n'avoir que 10 morts, alors que pour les ONG c'est complètement absurde. L'université américaine John Hopkins, qui s'est fait sa réputation oui. sur le fait de dénombrer les morts sur toute la planète, parle de 30 000 morts et non pas 10.
On voit 30 000 les morts au Venezuela. On ne mange pas, on ne peut plus se chauffer, on n'a plus d'eau. C'est catastrophique la situation au Venezuela.
Avec des pétroliers iraniens qui viennent d'arriver d'Iran pour livrer du pétrole, alors que théoriquement le Venezuela était un des plus grands producteurs de pétrole du monde, un pays qui marche à l'envers.
Bien, merci. 7h57. Merci Nicolas, c'est passionnant. Hein, tous les matins, 7h57, qu'allons-nous faire ?
À suivre, pas de notes en dessous de 10 à l'université compte tenu du coronavirus. C'est une décision qui fait hurler certains professeurs, dont François-Guy Trébulle, directeur de l'école de droit à Paris 1. Il sera avec nous juste après le journal de 8h sur RMC.
RMC.